pour reconnecter Martine.
Hey, comment ça va?
À Karim.
Super, pour vrai, ça fait longtemps.
Et Karim, à la bibliothèque.
Oups, excusez.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
Bonjour et bienvenue à Escale 17, 18h et Fulgence Bleu au micro, Nicolas Fadman à la technique. Oui, c'est bien jeudi, première partie d'émission, je reçois pas, bon, elle sera là avec nous, c'est une chroniqueuse, c'est pas une invitée. Myriam Larache qui va nous parler de sport. S'agit de quoi? Ouf, quand j'ai vu ce qu'elle m'a envoyé, difficile, 47e rang de Tiger Woods au golf. Alors là, il va falloir qu'il arrête, hein, ça. Depuis son accident là, plus rien ne marche lui. Alors, et puis la retraite définitive de la Belge, Kim Clijsters, au tournoi de Monte Carlo. Monte Carlo, pour ceux qui ne le savent pas, c'est à Monaco, hein. C'est en France, quelque part. Ouais. Bon, et puis bon, le patinage de vitesse, on a vu le grand Charles Hamelin qui a pris sa retraite, ici à Montréal même d'ailleurs. Myriam va nous donner tous les détails. Et puis en deuxième partie de l'émission, je reçois Marc Bourdeau, pianiste et réalisateur qui va nous parler de la redécouverte et de la découverte de Lionel Donnet 40 ans après sa disparition, après sa mort. Alors, restez à l'écoute si vous voulez en savoir plus. C'était Naman, Sunrise of India. Myriam est déjà au téléphone. Elle va nous parler de ses, de la grande déception du grand joueur de golf Tiger Woods et puis de la retraite définitive. J'espère que cette fois-ci, c'est définitif, hein, Myriam. Ouais, elle nous avait fait le coup en 2007 et puis en 2000.
Oh, oui,
en
2000.
Ouais, ouais, en 2000 quoi, en 2012 aussi, oui.
Oui, exact.
Et puis elle nous revient en 2022 pour
dire
qu'elle
est partie 7 ans. Elle est partie 7 ans.
Oui, en
2000. C'est énorme, 7 ans, hein.
C'est beaucoup. Voilà, et puis elle revient là pour elle a attendu pour d'être à Monaco pour prendre sa retraite.
Non, pas à Monaco, elle l'a annoncé juste avant justement le quelques jours avant le tournoi de Monaco.
Oh oui.
Elle l'a annoncé puis son... Alors bonjour d'abord.
Bonjour à toi Myriam.
Ça va bien?
Oui, ça va.
Et à tous nos auditeurs bien sûr, en ce jeudi pluvieux, il me semble que je vous le dis souvent ce mois d'avril, un jeudi pluvieux, hein.
Est-ce qu'il pleut? Quand je venais, il pleuvait pas.
Ben là, je peux te dire qu'il pleut.
Voilà. Okay.
Alors, on va commencer par le golf avec le tournoi des maîtres. On va retourner parce que c'était grandiose que Tiger Woods revienne. Tout le monde l'attendait. Tout le monde le suivait pas à pas. Alors, après avoir terminé donc sa dernière ronde, Tiger Woods, dimanche, a serré sa famille dans ses bras. Puis il s'est dirigé vers la porte du pavillon de l'Augusta National en peinant à marcher. Violence, on le voyait qu'il avait mal.
Myriam,
alors, le... oui.
Pourquoi il est revenu?
Mais Fulgence, c'est pas encore fini. Un golfeur, ça finit pas à 30 ans ou à 37 ans.
Oui, mais après, depuis son accident-là, il va pas bien.
Oui, il va pas bien parce qu'il s'est peut-être pas donné assez de temps, mais bon.
Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Je vais vous dire qu'est-ce qu'il va dire d'ailleurs de tout ça.
D'accord, ok.
Le grand champion, de, rappelons-le, de 82 titres professionnels, il faut tout le temps le rappeler quand même.
Oui.
Donc 15 tournois majeurs venaient de compléter donc son grand retour au jeu après un an d'absence. En passant, c'était sa 24e présence dans les allées du tournoi des maîtres à Augusta. Et tout au long de ces 4 jours, il n'a jamais osé se plaindre. On le voyait serrer les dents, je vous l'avais dit l'autre fois, hein, il serrait les dents.
Oui, tu nous en avais
de
parlé,
sa condition
le jeudi
physique.
Passé.
Mmh. Il a démontré à tous courage et persévérance, il faut le dire, à ses pairs et au public. Il a d'ailleurs, il ne s'est pas plaint une fois, hein. Il a d'ailleurs reçu un accueil triomphal lors de son dernier trou à faire au 18e Fagnon dimanche. Les gens l'acclamaient, il en était ému d'ailleurs. Malgré sa 47e place, il a dégringolé parce que à première ronde, rappelons-le, il était 13e.
Hein. Oui.
C'est pas si mauvais que ça.
Non, non.
Le jeudi,
non.
Il avait encore, je pense, un peu d'énergie là, fait que il est arrivé 13e, mais il a dégringolé samedi, ça s'est très mal passé. Il a essayé de se rattraper, malheureusement, donc il finit 47e.
Oui.
Pour cet ex-champion, il est resté positif et reconnaissant face aux encouragements du public. En conférence de presse, il a précisé. Le seul fait de jouer, de performer à ce niveau et de jouer une bonne première ronde, car il était 13e, rappelons-le, était une victoire pour moi. J'ai réussi à me hisser dans le haut du tableau. Je n'ai pas l'endurance physique que je voudrais, mais il n'y a que quelques semaines, je ne savais même pas si j'étais encore capable de jouer ce tournoi, a-t-il rappelé.
Wow.
Alors, c'est fort pour lui, c'est une victoire, hein, qu'il est fini. Parce qu'il y en a qui disaient qu'il n'allait pas finir. Hein. Alors, pourquoi a-t-il choisi son retour à Augusta? J'ai retenu cette question dans sa conférence de presse, sa réponse. Eh bien, ça signifie tellement pour moi et ma famille. Sachez que l'année où je suis née, 1975, Lee Elder fut le premier homme noir à participer au Masters de golf. Et donc, j'ai vécu en plus mes plus belles victoires ici à Augusta.
Ah.
Voilà pourquoi il a choisi son retour là.
Là, tu as donné la réponse à ma question. Là.
Et voilà.
Pourquoi il est revenu?
Quand je t'ai demandé
pourquoi il est revenu, voilà.
Alors, par ailleurs, on va quand même dire que le grand vainqueur du veston vert et du trophée, c'est Scottie Scheffler, avec une avance de 5 coups. L'Américain de 25 ans, il est jeune, hein, a navigué paisiblement vers la victoire et selon l'avis de tous, avec un calme alarmant et surprenant. Il était très calme.
Oui.
Pourtant, il a dit en conférence de presse, lui aussi, le dimanche matin, il s'est dit en ces termes, il s'est levé, j'ai compris que c'était mon moment, je l'ai senti, ça l'était vraiment. Une fois rendu sur le terrain, j'ai vraiment pris plaisir à jouer. Il a raconté ça avec émotion en conférence de presse. Mmh. Celui qui participait donc à un troisième Masters a résisté à la pression en ayant tout au long du parcours toujours des coups d'avance. Mmh. Et que c'est pour ça qu'il a fini premier. Alors on lui dit bravo à ce jeune homme.
Oui, oui, il va faire son parcours, c'est lui. Hein.
Oui, lui aussi. Alors au tennis maintenant, on passe au tournoi. Vous savez que c'est le troisième Masters, mieux. Donc cette fois-ci, on est passé du côté de l'Europe sur la terre battue, la terre ocre et orange.
Oui.
Alors c'est le Masters Mill de Monte Carlo. Comme tu l'as précisé tout à l'heure, c'est le petit rocher de Monaco, perdu là-bas en France, principauté des riches. Alors, le tournoi donc sur terre battue, il a vu plusieurs têtes de série tomber. Fulgence, on va
Myriam, oui. Myriam, oui. Il faut préciser, c'est en France, mais c'est une principauté
c'est
en France.
C'est une principauté indépendante.
Indépendante, à l'intérieur de la France.
Oui, à l'intérieur, c'est un rocher, en fait, c'est un gros rocher au bord de la mer. Hein, de la
voilà.
D'ailleurs, le terrain surplombe la Méditerranée, c'est splendide en passant.
Oui.
Je suis jamais allé, mais j'aimerais ça un jour.
Ah, il faut le faire. Je suis passé là une fois. Et puis, c'est pas. Les Français, pour aller là-bas, ils le feront un visa. Hein. C'est pas à Monaco comme
Bien
ça.
Bien sûr, oui, oui, oui. Il faut un visa, il faut rentrer. Et...
Ah, voilà.
Il y a un prince là-bas et toute une histoire.
Voilà.
Alors, sachez que donc, il y a plusieurs séries qui sont tombées. On va commencer par ce qui est le plus proche de nous. Notre Québécois Félix Auger-Aliassime se voit éliminé par l'Italien Lorenzo Musetti, 83e.
Oh,
en deux manches, j'ai vu le match. C'était assez pitoyable, hein, ce que j'ai vu en deuxième manche là, de Roger Aliassime.
Qu'est-ce qui se passe avec lui?
Il faut se poser des questions parce qu'écoute, il est arrivé à Indian Wells, il a perdu dès son entrée. Il est arrivé à Miami, il a perdu dès son entrée. Et il est arrivé maintenant à Monte Carlo et il perd dès son entrée. Alors je pense que tu sais que son coach, c'est Tony Nadal, l'oncle de Raphaël. Hein, c'est lui qui s'occupe de lui maintenant.
Oui.
Qui avait les yeux un peu perdus en le regardant. Alors je pense qu'ils vont se poser des questions dans son clan. Maintenant, passons au numéro 1 mondial. Qui était si fier et qui l'a crié « Je m'en viens jouer, Djokovic hein ». Il est venu jouer au tournoi. Lui aussi, il n'a fait que passer. À son arrivée, eh bien, figure-toi qu'Alejandro Davidovich Fokina, 46e au monde, l'Espagnol, un spécialiste de terre battue, bien sûr, comme tous les Espagnols.
Il lui a montré la porte.
Il lui a montré la sortie en trois manches, après presque 3 heures de combat.
Oh, c'est pas vrai.
J'ai vu une partie, c'était presque plaisant, vous allez me dire, elle ne l'aime pas Djokovic. Mais écoute, alors, il l'a sorti, il a admis Djokovic en conférence de presse, il aurait pu gagner même en deux manches, dit-il, de Fokina. J'ai réussi à pousser le match dans une troisième manche, mais là, je me suis effondré physiquement. Je ne pouvais plus bouger mes jambes.
C'est lui qui dit ça.
C'est lui qui dit ça, Djokovic.
Ouais, ouais, il manque de compétition.
Il manque de compétition, et certainement. Puis la terre battue, c'est pas son grand. Alors, il a commencé là, donc je pense que c'est pas sa grosse surface favorite.
C'est ça.
Alors, plusieurs le voyaient pourtant, hein, quand il était là, le voyaient déjà en finale contre le jeune prodige, Carlos Alcaraz.
Non,
hein.
non. Je me suis dit, Djoko manque de compétition, il peut pas aller loin.
Oui, et le jeune Carlos Alcaraz, hein, dont tout le monde parle, dont on a parlé il n'y a pas longtemps,
oui.
À Miami, eh ben, figure-toi que lui aussi, il a vu la porte de sortie. Il est parti par l'Américain Sébastien Corda, qui lui a montré la porte. Alors les attentes du public qui attendaient une finale, Djokovic-Alcaraz, c'est fini. Il ne reste plus que les Zverev, Tsitsipas, Sinner, Urquaz, Schwarzman, Diego, l'Argentin, Fritz, l'Américain, Dimitrov, le Bulgare, Fokina toujours est là. Pour les quarts de finale.
Tu me permets de te dire une chose ?
Bien sûr.
Il y a une absence totale de permanence dans l'espoir de ces gens-là maintenant, les joueurs de tennis, là, un peu. Là.
Mais c'est drôle parce que ça a commencé avec les femmes d'abord. Hein.
Oui.
Je ne sais pas si tu as remarqué, on disait beaucoup ça.
Oui.
La numéro 1 mondiale chez les femmes varie beaucoup.
Oui. Okay.
Depuis quelques temps, ce n'est plus une numéro 1 comme Steffi Graf qui est restée pendant 3-4 ans, Chris Tevert et Martina Navratilova pendant des années,
oui.
voire une décennie.
Puis,
mais les femmes ont eu beaucoup de variations. Beaucoup de changements. Ben, les femmes s'arrêtent, elles ont une vie familiale des fois, des blessures qui ont du mal à reprendre, hein, il faut reconnaître ça.
Oui.
Et la jeunesse, je ne sais pas si tu as remarqué, Fulgence, mais ne serait-ce qu'en parlant de notre jeunesse féminine et d'ailleurs même masculine, ils brillent tout d'un coup. Puis s'éteignent, puis brillent, puis s'éteignent. Hein, je ne sais pas si tu as remarqué ça.
Oui, c'est là où je veux en venir. Il n'y a pas de permanence dans leurs prestations, quoi. Ils nous enchantent, ils nous font applaudir, être contents. Une fois, deuxième fois, c'est fini. Après, ils reviennent. Oui. Après, ils disparaissent.
On est un peu déçu de Bianca Andreescu qu'on voit plus. Hein. Elle nous a mené jusqu'au haut. Elle a gagné un grand chelem. Elle a gagné un Master Mills. Puis elle est blessée, puis elle a du mal à revenir. Mais
non,
par contre, elle ne peut plus
revenir à ce niveau-là. Voilà.
Oui, il faut reconnaître quand même que les hommes, c'est un peu plus stable.
Oui.
Zverev est toujours là. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, c'est un troisième mondial hein, maintenant.
Oui.
Parce que les gens l'oublient. Hein. Quand il arrive sur le terrain, on pense qu'il est toujours sixième, septième, huitième. Non, il est troisième mondial.
Il est troisième mondial.
Tsitsipas est en dessous de lui. Il se tient, lui aussi, dans le top 5. On a ce jeune Italien, Sinner, qui est sur terre battue, ben, il se débrouille pas mal bien depuis un an. On a toujours le vétéran, qu'on peut dire maintenant argentin, Schwarzman, hein, sur la terre battue, il est toujours là. Alors voilà, tout ça c'est les quarts de finale, vous pourrez les voir à partir de demain. C'est des beaux matchs encore.
Mais le vétéran, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de lui. Hein.
Schwarzman ?
Ouais.
Ouais, Diego, non, sur terre battue, il est 13e quand même au monde, hein. Il n'est pas si mal classé, il est dans le top. d'accord, top 20 quand même.
D'accord.
Et quand il est sur terre battue, ben, on le voit.
Parce on le voit.
Là, il passe. Il
d'accord,
passe.
D'accord,
alors,
ok.
Maintenant, Kim Clijsters, oui, vous en avez parlé tout à l'heure. Alors, cette semaine, la Belge, qui est ex-numéro 1 mondial de tennis, a annoncé cette fois, en début de semaine, qu'elle renonçait pour de bon à la compétition et cette fois pour de vrai, donc au tournoi officiel, après avoir tenté depuis 2 ans un nouveau retour. Alors la Belge, qui a été numéro 1 mondial une première fois en 2003 quand même, c'est longtemps,
hein, oui, oui.
a quitté les cours à 23 ans en mai 2017. Donc déjà en 2007, elle a dit ça y est, elle avait 34 titres à la WTA,
oui.
et dont un grand chelem à 2005 à New York. Elle s'est arrêtée, elle voulait fonder une famille, elle a eu un enfant. Bon, son retour retentissant en 2009, explose encore, parce que cette fois, elle gagne 3 grands titres du Grand Chelem quand même. Elle gagne en l'US Open en 2009, en 2010, l'Australie en 2011.
Oui.
Et là, tout le monde a essayé, c'est Kim Clijsters. C'est la vedette. Elle avait d'ailleurs, qui sa rivale? Allez, dis-moi, c'est qui sa rivale? L'autre belge, francophone, parce qu'elle est flamande, mais l'autre. Justine Henin.
Oui,
la
oui.
La petite Justine Henin qui fascinait tout le monde par sa petite taille, mais qui était explosive sur un terrain, avec son revers d'ailleurs. Elle a cumulé alors 41 titres Kim Clijsters au total et 4 fois numéro 1 mondial pendant 8 ans. Et une autre blessure la pousse encore à se retirer. Et là, elle s'arrête pendant 7 ans. C'est que tout le monde a dit c'est fini, Kim Clijsters, c'est terminé. Elle a décidé de revenir vers la fin de 2019. Et son dernier match, figure-toi, remonte donc à l'année dernière, en octobre en 2021 en Californie.
Oui.
Elle est juste arrivée à Indian Wells, justement, en mars, comme ça, après. Et là... c'était fini.
Pas d'abond.
Elle n'a pas gagné son premier match. Elle a été éliminée dès son entrée. Et elle venait de subir 4 autres revers dans d'autres petits tournois juste avant.
Oui.
Et donc cette année, après la pandémie, elle n'a pas pu avec les voyages et sa famille. Elle a annoncé que c'était terminé pour de bon. Elle va s'occuper de sa famille.
C'est vrai, c'est normal. C'est normal. Elle n'a plus, plus la rage de vaincre, comme on dit. Quoi.
Elle frôle les 38 ans, je pense. Hein,
donc, ouais. C'est comme Serena, je ne pense pas qu'elle va revenir.
Non, je pense pas. Puis d'ailleurs, elle a dit qu'elle va s'occuper maintenant. Elle va être l'agente de sa fille qui va être une joueuse de basket, je pense. Alors,
sa fille va être joueuse de basket?
Oui, elle vit aux États-Unis en passant. Hein. Elle vit plus en Europe, Kim Clijsters. Elle est mariée à un Américain, donc elle vit ici, de notre bord.
Ah, Monaco, ok.
Une autre retraite, puisqu'on parle de retraite. On va parler de notre Québécois, le légendaire Charles Hamelin.
Oui.
Le week-end dernier, sachez que c'était les championnats du monde courte piste de Montréal. Le légendaire patineur de 37 ans, Charles Hamelin, s'est dirigé. Donc, à la fin, en bordure de patinoire, il a pris sa petite fille dans ses bras.
J'ai vu des images. J'ai vu des images.
Piste, oui. Elles ont fait le tour du Québec et du Canada. Donc, en bordure de patinoire avec sa fille, et il a souri, avec le sourire aux lèvres, il a salué la foule montréaliste pour la dernière fois.
Oui.
Celui que l'on surnomme d'ailleurs la locomotive de Sainte-Julie. Je ne le savais pas.
La locomotive de Sainte-Julie, c'est un natif de Sainte-Julie.
De Sainte-Julie. Alors, il restera gravé dans les mémoires. Donc, les 3200 spectateurs à l'Arena Maurice Richard étaient venus en liesse l'encourager, surtout pour la finale du relais masculin. Alors, le sextuple médaillé olympique a d'ailleurs reçu une ovation avant même que la course ne commence, au point qu'il était ému, il a mis sa main sur son cœur. Alors avec ses coéquipiers, Hamelin, Dion, Dubois, Pierre Gilles, ils sont allés chercher une dernière médaille pour lui. C'est la médaille de bronze, ils avaient eu la médaille d'or aux Jeux de Pékin, mais là ils ont eu la médaille de bronze. Alors voilà, en passant, c'est les Sud-Coréens qui ont gagné l'or et c'est les Néerlandais qui ont porté l'argent. Soulignons que Charles Hamelin, c'est 19 ans dans l'équipe nationale, c'est 6 médailles olympiques, dont 4 d'or, 38 médailles en championnat du monde et 142 en coupe du monde. Wow, 142, il faut le dire. Hein. D'où son statut de légende du sport qui lui a été attribué, et cela à juste titre. D'ici là, le patineur continuera d'encourager, dit-il, ses coéquipiers, et il a lancé « Le futur, c'est maintenant qu'il commence ». Voilà, Fulgence.
Merci beaucoup, Myriam.
Je vous dis à la semaine prochaine. Joyeux congé, Pascal.
Myriam, j'espère qu'elle ne va pas nous revenir dans 7 ans plus tard, à 45 ans, pour dire que je veux jouer encore au tennis. Je parle de Kim.
Je pensais que tu parlais de Charles Hamelin. J'ai dit,
c'est... Non, non, non.
Tout le monde peut revenir. Hein.
Non, Charles, il ne fera pas ça. Charles, il ne fera pas ça. Il a sa famille à gérer aussi, attention.
Oui. Ils veulent tous revenir. Hein. À un moment donné, ça leur manque la compétition, c'est l'adrénaline.
Merci beaucoup, Myriam. Bon congé de Pâques à toi et puis à bientôt.
Merci à tous aussi. Ouais. À bientôt, à la semaine prochaine.
Bye bye.
Bye. We'll be right back.
from Loam Bolero.
Merci à l'écoute. Là, on a écouté tout d'abord Zahara avec Dynastie et ensuite c'est Oige Groove, 12th Night. Après la petite pause publicitaire et la première pièce musicale, je vais recevoir Marc Bourdeau qui va nous parler des 40 ans de son album pour depuis les 40 ans après la disparition de Lionel Donnet. Allez, à tout de suite, restez à l'écoute.
Pour reconnecter Simon et Pierre-Luc à
deux relèches moutardes puis le liqueur.
Et surtout à ça.
Yeah! Voyons, j'ai plus de voix.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
Vous écoutez Escale 1718 avec Fulgence Blas.
Déjà au bout du fil, voilà, il va nous parler de cette pièce qu'on vient d'écouter, Marc Bourdeau, quand il s'est rendu compte que l'anniversaire de la disparition de Lionel Donnet approchait, il a dit, non, il faut quelque chose. C'est grâce à ce monsieur que depuis son adolescence, il s'est accroché à cette musique qu'il a beaucoup aimée. Il est pianiste, voilà, accompagnateur, réalisateur. Il a ruiné quelques-uns de ses amis, artistes, pour mettre cet album sur le marché. Bonjour Marc Bourdeau.
Bonjour, merci de l'invitation.
C'est moi qui vous dis merci. Merci. Alors, est-ce que vous êtes satisfait du travail que vous avez fait avec vos collègues?
Oui, on a eu beaucoup de plaisir à répéter, à enregistrer.
Oui.
Et puis, on a eu la chance d'avoir une belle subvention du Conseil des arts du Canada pour faire ça.
Profiter de l'onde. On va leur dire merci en même temps. Hein?
Oui, ben, c'est parce que ça a coûté 40 000 $ faire ça. Donc, il faut. Oui. On a eu vraiment beaucoup de chance. Mm-hmm. Oui. Et puis, c'était vraiment la première fois que j'ai été avec l'ingénieur du son pour faire l'étape du mixage.
Oui.
Et puis, je ne m'étais pas rendu compte à quel point, au niveau de la technologie maintenant, ils peuvent bonifier ce qui a été fait au moment de l'enregistrement.
Oui.
Ça a été vraiment fascinant. En musique pop, ils ont l'habitude de ça, mais en musique classique, un peu moins. C'était vraiment la première fois que je me rendais compte de toutes les possibilités.
Oui.
Et puis, ce qu'on vient d'écouter, ça, c'est aussi la première fois que nous tous de l'équipe avons fait ça.
Oui.
La flûte a été enregistrée à Genève au mois de décembre, mais Jacqueline et moi, on a enregistré la partie de chant et de piano à Montréal au mois d'octobre. Et puis l'ingénieur du son a tout combiné ça, puis on a vraiment plutôt l'impression qu'on était les trois ensemble en même temps, dans la même ville, dans la même salle de concert pour enregistrer, mais ce n'était pas le cas.
Vive la technologie.
Oui, oui.
Avec la technologie aujourd'hui, tout est possible.
Oui, bon, Céline Dion a l'habitude de faire ça, mais nous, ce n'était pas le cas.
Alors, quand vous avez approché vos collègues artistes, là, Jacqueline, Amina, Pierre, Rancourt, Michel, Bélavance, comment ils ont réagi?
Alors, Jacqueline et Pierre connaissaient déjà la musique de Monsieur Daunet.
Oui.
Parce que dans le monde du chant classique au Québec, c'est quand même un des compositeurs que les chanteurs interprètent en public.
Oui, oui.
Mais Anina, qui elle est suisse, connaissait pas du tout Monsieur Daunet,
oui.
Ses œuvres. Donc j'en ai fait écouter quelques-unes, puis elle a dit ah, oui, c'est beau, ça m'intéresse.
Mm.
Et puis Michel, que je connais depuis. Ça fait 30 ans que je connais Michel.
Oui.
Quand j'ai vu que pour la pièce À quoi bon rêver, que M. Daunet avait esquissé sur le manuscrit une partie supplémentaire instrumentale.
Oui.
Donc, il y avait déjà le piano, le chant, puis il avait esquissé, mais pas terminé une partie. Je pense qu'il avait pensé pour le violon, mais je me suis dit, bon, ben, je vais peut-être faire autrement. Et puis, j'ai écrit une partie pour Michel. Ben, j'ai demandé à Michel, veux-tu participer au projet? Il a dit oui. Alors, je lui ai écrit une partie pour la flûte. Alors, tout le monde était enthousiaste.
Oui.
Mais faut dire que, bon, il y a des certaines chansons qui sont plutôt humoristiques.
Oui.
Donc, en répétition, on a quand même pas mal rigolé.
Oui, oui. Moi aussi, quand je me suis mis à écouter.
À l'enregistrement aussi, on a rigolé parce que des fois, il suffit qu'il y en ait un qui dise des mauvaises paroles, que tout le monde attrape le fou rire, là, surtout dans les pièces humoristiques.
Oui, c'est ça. Donc, c'est dans le cadre de commémorer le 40e anniversaire de la mort du compositeur montréalais Lionel Daunet.
Oui.
Et le titre de l'album, c'est Lionel Daunet, Mélodie, Song.
C'est ça, oui.
Oui.
Monsieur Daunet a écrit les partitions, je les ai établies à partir des manuscrits qui sont aux Archives nationales.
Oui.
Et puis, je n'avais pas réalisé avant d'aller fouiller là, dans toutes les boîtes des archives qu'il a écrit pour voix et piano, il a écrit 250 mélodies. Souvent, on lit sur Internet qu'il en a écrit à peu près une centaine, mais c'est plus que le double. Alors, j'ai fait un premier choix.
Oui.
J'en ai retenu une quarantaine, puis ensuite on les a testés avec les chanteurs pour savoir ce qu'ils préféraient.
Oui.
Puis on a retenu une trentaine en tout. Il y en a 27 sur l'album, mais on a aussi sorti 3 singles, vu qu'on avait enregistré plus de musique que ce qu'il faut pour un CD.
C'est ça. Mais comment est-ce que vous tombez la musique de ce grand monsieur-là, à votre adolescence?
Ce que je trouve qui est très bien, c'est qu'il n'y a pas tout écrit dans le même style.
Oui.
sur l'album, il y a des chansons comme « À quoi bon rêver » qui sont plus dans un petit peu dans le style de musique classique,
oui,
ce qu'on appelle la mélodie française.
Oui.
Il a écrit des chansons humoristiques qui sont un peu influencées par le folklore,
oui,
et puis par la réalité de la société québécoise dans les années 30, 40, un peu 50.
Mm-hmm.
Donc ça, on en fait quelques-unes sur l'album. Il a écrit des très jolies chansons pour les enfants. Donc ça, on en fait deux.
Oui.
Et puis, il a écrit, surtout dans les années 40 et 50, vraiment de la chanson de variété. Donc sur l'album, il y a une chanson qui s'appelle « Les perceurs de coffre-fort ».
Oui.
Ça fait vraiment comme de la chanson française des années 40-50.
C'est ce qu'on va écouter d'ailleurs pour une prochaine,
oui,
prochaine chanson. Là, c'était vous et Pierre Rancourt.
Oui, et puis comme c'est un petit peu jazzy,
oui,
j'ai fait un accompagnement qui a mis un petit peu l'emphase sur, discrètement, mais un petit peu l'emphase sur le jazzy.
Oui.
Puis Pierre, la veille de la journée d'enregistrement, il s'est dit, ben, écoute, toi, si au piano, tu fais des trucs un petit peu jazzy, est-ce qu'il n'y a pas un des couplets que moi, je pourrais faire du scat, comme les chanteurs jazz font?
Ah.
Je dis, ben, pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Ben oui, le refrain, c'est toujours les mêmes paroles.
Ouais.
Alors, il y a un des refrains, il fait du scat.
Oui.
Puis on a, oui, j'ai trouvé c'est ce que c'est une très bonne idée, et puis il a très bien réussi.
C'est ce qu'on va écouter comme prochaine chanson d'ailleurs. vous êtes Montréalais comme Lionel. Ouais.
Oui, oui.
Oh, ouais, vous avez joué
dans... ici.
Oui,
c'est ça.
Vous êtes natif de Montréal. Vous avez joué dans des salles de renommée à Paris, à Vienne, Amsterdam, New York, Munich, Los Angeles, un peu partout là. J'ai dit, mais où
un petit peu partout, oui.
Où est-ce qu'il n'est pas passé encore?
Pas toute la même année.
Ouais.
Pas toute la même année, mais un petit peu partout, oui.
Ouais.
Une
douzaine d'albums de votre part.
Oui, pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup joué en Amérique latine. J'espère que c'est quelque chose qui pourra être développé là dans l'avenir, quand la pandémie va un petit peu se calmer.
Oui.
Oui, c'est à peu près le seul endroit. Ben, le continent africain non plus, pas beaucoup. Ça aussi, j'aimerais ça développer, parce que quand même, un grand amour pour la musique.
Oh wow.
Ben oui. Mm-hmm.
Parce que la musique est universelle.
Oui, oui, absolument.
Oui, c'est un langage universel.
Oui, oui, oui.
Et à propos de Centre Disque...
Alors, Centre Disque, c'est une maison de disques à Toronto,
oui,
qui est liée au Centre de musique canadienne. Puis le Centre de musique canadienne, ils ont des antennes un peu partout au pays, les à Halifax, à Montréal, à Toronto, à Winnipeg, à Calgary, je crois, et puis à Vancouver. Et puis, Centre Disque, c'est la compagnie disque du Centre de musique canadienne,
oui,
qui sont spécialisés dans le répertoire canadien. Donc, c'était un projet là, qui entrait tout à fait dans leur corde.
Oui, oui, qui fait la promotion de la musique de création canadienne.
Oui,
ouais.
C'est ça. Oui, oui. Mm-hmm.
Alors, ouais, ouais, ouais. Comme selon ce que j'ai reçu comme formation dans mes recherches, c'est la seule étiquette qui propose exclusivement des œuvres de compositeurs et compositrices canadiens.
Oui, absolument. Ouais. Ouais. Donc, là, M. Donnet, c'est de la musique qui est de la musique tonale qu'on a l'habitude d'entendre.
Oui.
Mais le Centre de musique canadienne, le Centre Disque, publie aussi de la musique plus expérimentale,
oui,
de la musique plus contemporaine.
Mmh. Pour ceux qui ne le savent pas, cet album est sur le marché depuis le 1er avril 2022. Voilà,
oui.
Il y a déjà 14 jours, 2 semaines. Quand vous allez nous écouter, là, si vous n'avez pas encore votre copie, allez-y, tout est téléchargeable, tout est achetable sur toutes,
oui,
les plateformes numériques. Voilà, tout est achetable sur toutes les plateformes. D'ailleurs, vous avez mis, oui, Marc, vous avez mis trois singles là-bas, ouais.
Oui, il y a 3 singles sur les plateformes d'écoute en continu, le streaming.
Oui.
Mais l'album existe aussi sur les plateformes de streaming, mais l'album existe aussi en CD physique.
En CD physique.
Oui.
On peut trouver chez les vendeurs normaux, là, Renaud Bré, Archambault et autres.
C'est une très bonne question.
Oui.
Faudrait que je vérifie.
Oui.
En principe, oui, parce que le distributeur, c'est Naxos, puis
oui,
Naxos a l'habitude d'être... disponible partout.
Oui.
Mais c'est une très bonne question que vous posez.
Ouais.
Je ne sais pas, je ne suis pas allé vérifier.
D'accord.
En tout cas, le disque, on peut l'acheter sur le site Centre Disque.
Mmh.
C'est centredisque.ca. Et puis, j'ai aussi mis l'album à un site Internet qui est tout simplement lioneldonnet.com. Et puis, sur le site, de l'album, il y a les liens pour acheter ou bien vers les plateformes de streaming.
Ouais. D'ailleurs, très beau site d'ailleurs, lionel-donnet.com, là, c'est très beau site que vous avez fait.
Oui, on s'est donné de la peine.
Oh là, vous avez un très bon graphiste pour faire ça. Alors, on écoute la prochaine pièce. Voilà, oui. ça c'est vous et votre ami
Pierre Rancourt,
les perceurs de Coffrefort. Le titre même m'a fait sourire.
Oui. Ça, les paroles sont de Monsieur Donnet aussi. Il y a plusieurs chansons sur l'album où il a écrit non seulement la musique, mais aussi les paroles.
Ah ouais. Allez, on écoute ça.
C'est nous les perceurs de Coffrefort. Habile à manier le bâton fort, si nous ne chantons pas très fort, c'est qu'on n'a pas le coffre fort. Fermez la porte, poussez le verrou, à gauche ou à droite, tournez le bouton, peu nous importe.
Son ami Pierre Rancourt, les perceurs de Coffrefort. Vous avez entendu, hein?
Oui.
C'est ça, tout là-dedans, tout ça. C'est jazzy. Hein?
Oui, ça c'est celle qui est la plus jazzy sur l'album.
Oui, c'est très jazzy, ouais. Très jazzy. J'adore ça.
C'est rigolo. On a eu beaucoup de plaisir à la faire, celle-là. Ben, toutes, mais celles qui sont plus comiques que... C'est pas parce qu'on est des musiciens classiques qu'on peut pas avoir vraiment beaucoup de plaisir puis rigoler en répétition ou bien en enregistrement.
C'est ce que je me suis dit quand j'écoutais les différentes pièces là pour pouvoir faire mon choix. C'est ce que je me suis dit. Mais Marc, il sait ce qu'il fait. C'est parce qu'ils sont musiciens classiques, il peut pas faire rire les gens. Il peut pas avoir du plaisir comme ça de ce genre.
Oui, on peut. On a vraiment eu beaucoup de plaisir.
Oui. Alors, il faut le rappeler, ce monsieur là, Lionel. J'appelle ce grand monsieur Lionel Donnet. Il est né en 1901.
Oui.
Voilà, à Montréal. Et il nous a quittés malheureusement en 1982, le 18 juillet.
Ouais. Mm-hmm.
C'était un chanteur baryton d'opéra, compositeur, metteur en scène.
Oui. Mais une personnalité de la radio aussi, parce que
oui.
Bon, il a commencé sa carrière comme chanteur.
Oui.
Et il a remporté assez rapidement des prix à Montréal.
Oui.
Ensuite, il s'est perfectionné pendant 3 ans à Paris.
Oui.
Et puis en 1929, il a été engagé pendant 1 an à l'Opéra d'Alger, en Algérie, où dans une seule saison, il a tenu plus de 20 rôles. Alors, il a dû en travailler un coup cette année-là, parce que des rôles à l'opéra, faut les apprendre.
Oui. Oui.
Donc, c'était 20 nouveaux rôles qu'il apprenait. Donc ça, c'est déjà du sport. Il est revenu à Montréal en 1930. Et puis en 1932, il a fondé avec Anna Malenfant, qui était une contralto, et puis Jules Jacob, un ténor, un ensemble qui s'appelait le Trio Lyrique. Il y avait aussi un pianiste,
oui.
Alan MacIver.
Mm-hmm.
Et puis dès leur première année, ils ont eu leur propre émission à la radio.
Oui.
Donc au Québec, de 1932 jusqu'à 1965. Oui.
Ouais.
Ils avaient leur émission hebdomadaire à la radio.
Oui.
Donc tout le monde à l'époque savait qui était le Trio Lyrique parce qu'on l'entendait à chaque semaine.
C'est ça. Hein?
Oui.
Moi,
ensuite, il a fondé en 1930. Il a fondé, ce qui a été pendant presque 20 ans, la principale compagnie d'opérette et d'opéra à Montréal, qui s'appelait les Variétés Lyriques. Donc, il était co-directeur avec Charles Goulet. Et puis, sur les 19 années d'activité, puis il présentait les spectacles au théâtre, au Monument National, à la grande salle du Monument National.
Oui.
En tout, ça a été 1084 représentations sur 19 ans.
Wow.
C'est quand même beaucoup. Et puis, ils ont monté 84 œuvres. Donc, ça aussi, c'est beaucoup.
C'est beaucoup.
Non,
il a tout un parcours fascinant. Ça me donne le vertige.
Et puis, il a, c'était un bon comédien. Moi, je ne l'ai pas vu à la scène.
Oui.
Mais c'était un bon comédien. Il était de la distribution d'un des tout premiers téléromans à la télévision de Radio-Canada. Un téléroman qui s'appelait Les Quatre Fers en l'air. Et puis, lui avait un rôle là-dedans. Et puis, un rôle comme comédien. Et puis aussi, de 1960 à 64, il jouait aussi dans un autre téléroman qui s'appelait « Fille d'Ève », aussi à Radio-Canada.
Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Oui, c'est vrai.
Quand j'ai écrit sa bio pour le livret du disque, je me suis
dit,
mon Dieu, il y avait 3 enfants. Ben, avec son épouse, ils en ont eu 4. Leur première fille est décédée... quand il était encore enfant, mais donc il était père de famille, co-directeur d'une maison d'opérette. Il faisait partie des variétés du Trio Lyrique. Il composait. C'est un monsieur qui aimait se garder occupé, je crois.
Marc, est-ce que vous avez pu rencontrer quelques membres de la famille?
La seule que j'ai rencontrée, à qui j'ai parlé à quelques reprises, et puis que j'ai rencontrée à 2 reprises,
oui.
C'est sa fille Benjamin, Louise Grenier.
Oui.
Oui.
Est-ce qu'elle fait...
elle est venue écouter. J'ai fait avec, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, j'avais fait un spectacle d'Aunay,
oui.
Avec 3 chanteurs de l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Montréal.
Mm-hmm.
Un spectacle qui avait été conçu et mis en scène par la comédienne et metteur en scène Marie-Lou Dion.
Oui.
Et puis Madame Grenier est venue au concert. Elle et puis des membres de sa famille, donc elle est venue nous voir après pour nous dire à quel point elle était contente que les œuvres de son père soient encore vivantes.
Oui, oui, mm-hmm. Oui, et qu'il y a quelqu'un qui se nomme Marc Bourdeau, qui vit avec ses œuvres depuis son adolescence.
Oui,
c'est ça,
oui.
C'est ça qui me... Mais sa carrière même qui a démarré vraiment, il nous reste à 1 minute et demie, sa carrière même qui a démarré vraiment en 1926, quand il a eu le prix, il remporte le prix d'Europe.
Oui, oui, c'est un concours, c'est un prix qui existe encore aujourd'hui.
Oui.
C'est ce qui lui a permis d'aller, à l'époque, étudier à Paris pendant, se perfectionner à Paris pendant 3 ans.
Oui, Oui.
Puis il avait 25 ans. Puis il a commencé les études de chant à 19 ans.
Oui.
Puis il a enregistré à l'époque son premier disque, c'était des 78 tours à l'époque, en 1926. Donc le premier disque qu'il a fait, il avait 25 ans.
Oui, 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 oui. Ouais. Quel est le message que vous pouvez laisser donner à ceux qui se disent que ce genre de musique, c'est pas leur musique
Sur le disque, il y a du répertoire pour un tout petit peu tout le monde.
Oui, c'est ce que j'ai remarqué d'ailleurs.
Oui, ceux qui aiment plus la musique classique, il y a le style de mélodie française, il y a des chansons pour la jeunesse,
oui.
Il y a des chansons de variété, et puis il y a les chansons humoristiques.
C'est ça, personne n'est laissé sur le trottoir.
Non. Non. Ça a été, quand on s'est rendu compte la diversité de son écriture, on s'est dit, OK, ben on va en mettre, on va partager ça, les quatre styles avec, on va vraiment mettre ça de l'avant sur le disque.
Merci beaucoup, Marc Bourdeau.
Vous en prie.
Pianiste, réalisateur, accompagnateur, créateur, tout. Merci. Merci, moi, particulièrement, de m'avoir fait découvrir ce grand monsieur Lionel Donnet. 40 ans après sa mort. Bientôt, c'est l'anniversaire de sa disparition. Hein. C'est grâce à vous. Et je sais pas si...
On a la chance que tous les manuscrits sont aux Archives nationales, donc j'ai pu vraiment aller fouiller et puis travailler d'après ces manuscrits.
Ils vous ont permis d'avoir accès à ces manuscrits-là,
oui.
Merci beaucoup à vous.
Je vous en prie.
Et au plaisir de vous réentendre pour un autre album, parce qu'il a beaucoup d'œuvres, c'est pas...
On va y aller un album à la fois, $40,000 à la fois.
Bonne soirée à vous, bon congé de Pâques et puis à bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Sweet, sweet child, close your eyes. Life will get better if you try. You don't know the path you may go, but if you believe in faith, you'll grow. No matter how
merci à toi, Nicolas. Bon congé de Pâques. On se retrouve la semaine prochaine, le mardi. Ouais, et puis on dit merci à Myriam Larache qui est venue nous parler de sport et puis de notre invité Marc Bourdeau qui est pianiste, réalisateur, concepteur, accompagnateur qui est venu nous parler de la découverte et de la redécouverte de Lionel Donnet 40 ans après sa disparition. C'est bientôt son anniversaire de mort, pas de naissance. Merci à vous, chers fidèles auditeurs qui nous suivez depuis le début de cette émission. Je vous souhaite un très bon congé de Pâques et au plaisir de vous retrouver ici la semaine prochaine, le mardi. Voilà. Et je vous dis ciao.
Pour reconnecter Diego.
Salut tout le monde, ça va bien?
À ses collègues.
Hey! Allô, le petit nouveau.
Et ses collègues, à Diego.
C'est parce que ça fait 7 mois que j'ai commencé.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.